Le sous-titre que j'avais choisi, Genèse de la réforme, dynamique et spectre social, c'est un petit peu la triple ambition, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'a été la réforme en Normandie, en essayant un petit peu d'accentuer les choses sur le vocabulaire qu'il faudrait utiliser. Par exemple, hier, on a pas mal utilisé le mot protestant. Je crois qu'il faut être prudent dans l'usage des termes, hein. Et on a, en fait, j'ai essayé de vous montrer qu'on a une espèce de glissement, en fait, de pratique qu'on pourrait plutôt qualifier d'hétérodoxe, vers un protestantisme et un protestantisme de type réformé, hein, de type calviniste, plus que calvinien d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'il faut être un peu prudent dans les mots. Donc en effet, en quelques 70 ans, donc de la fin des années 1520, la signature de l'édit de Nantes, la Normandie voit la réforme s'enraciner, hein. Les premiers signes de dissidence, voilà un autre terme que l'historiographie aime bien, apparaissent assez tôt, hein, dans l'histoire de la province, mais la cristallisation de la réforme, elle, date de la fin des années 1550 et du début de la décennie suivante, hein, à la veille des guerres de religion qui éclatent en 1562. C'est à ce moment-là, donc entre 1555 et 1565, que de multiples églises, tant urbaines que rurales, sont dressées, hein, ou plantées, c'était le vocabulaire qu'on utilisait, c'est-à-dire organisées autour d'un consistoire. Donc quand éclate la première guerre de religion, le protestantisme, le mouvement réformé, soyons plus justes, est déjà solide. Mais il atteint en fait son maximum démographique en 1562, et ce qui avait amené, on parlait de cet historien tout à l'heure, Pierre Chonu, à dire que en fait l'histoire de la réforme, du mouvement réformé, c'est l'histoire d'un déclin très très précoce, puisque le maximum est atteint dès 1562. Donc il y a un affaiblissement pendant la seconde moitié du XVIe siècle, mais un affaiblissement dont il convient néanmoins de mesurer la portée. Alors j'ai organisé les choses sous la forme de deux parties. Dans une première partie, je vais revenir sur la diffusion, l'organisation de la réforme en Normandie, avant de, comment dirais-je, d'expliquer le rôle des guerres de religion, et de revenir notamment sur la Saint-Barthélemy et ses échos en Normandie, puisqu'il y en a eu à Rouen en particulier. Alors d'abord, donc une première partie de diffusion et organisation de la réforme en Normandie. Pour dire les choses, en fait, souvent on insiste sur la précocité de la réforme en Normandie, et on cite très souvent une lettre du réformateur Martin Bucer, adressée à Martin Luther, en 1530, où la Normandie est qualifiée de mini-Allemagne, hein, parva Alemannia. Bon, en fait, cette expression est souvent interprétée de manière erronée. Il ne s'agit en fait que d'une publicité luthérienne, en quelque sorte, à laquelle se laisseront prendre bien des contemporains, en fait. En réalité, dans les années 1520-1530, pour dire les choses, pour reprendre un peu le vocabulaire d'un grand spécialiste de cette période qui s'appelle Bernard Roussel, il y a plutôt une série d'incidents relativement individualisés qui mettent à l'épreuve, je cite toujours Bernard Roussel, le conformisme spirituel et la routine religieuse des Normands. C'est comme ça qu'il faut vraiment, donc, une série de pratiques hétérodoxes, mais qui ne font pas encore, comment dirais-je, rassemblement religieux, hein. C'est vraiment quelque chose de très individualisé. Alors, essayons d'examiner un petit peu ça. Alors, bon, évidemment, quand on fait ça, les choses paraissent excessivement impressionnistes, en fait, puisque il faut dresser une espèce de liste de péripéties, d'incidents qui marquent la seconde partie du règne de François Ier, en fait. Alors, moi, j'essaye de dresser un tableau un peu, peut-être, forcément impressionniste, mais quand même un peu synthétique, donc c'est un peu contradictoire, mais j'ai essayé de le faire. Disons que les choses, par exemple, on sait qu'il y a une série d'incidents du côté d'Alençon, hein, du côté des environs d'Alençon. Vous savez que c'est la sœur du roi, Marguerite d'Angoulême, dont l'époux Charles d'Alençon meurt en 1525, qui est la personnalité autour de laquelle se cristallise un certain nombre de choses en Alençon, dans la région d'Alençon. Et donc Marguerite d'Angoulême ou de Navarre, si vous préférez, ça dépend en fait du moment de la vie, ou de Valois, si on veut, qu'on considère. Donc là, Marguerite favorise la venue, par exemple, d'un imprimeur qui s'appelle Simon Dubois, qui était chargé d'éditer ses poèmes Miroir de l'âme pécheresse, mais aussi édite des ouvrages d'édification dont de nombreuses pages sont traduites de Luther. Donc voilà, on est dans une série d'événements qui montrent la connexion avec ce qui se passe du côté de Luther. Elle accueille aussi Pierre Caroli, un animateur du groupe de Meaux, aux côtés de Guillaume Brissonnet. Pierre Caroli, d'ailleurs, est titulaire de la cure de Notre-Dame d'Alençon dans la première moitié des années 1530. Alors, dès avant même le décès de son mari en 1525, donc dès les années 1523-24, Marguerite avait envoyé sur ses terres d'Alençon une autre figure du groupe de Meaux, c'est Michel d'Arande. Donc les thèmes réformés, luthériens plutôt, hein, sont bien présents à Alençon dans la région, donc au tournant des années 1520-1530. On retrouve aussi, par exemple, chez Étienne Lecourt, un curé de Condé-sur-Sarthe, pas très loin, qui est finalement brûlé vif en 1533. On a retrouvé chez lui des thèses rédigées par Allaire et Kolb en vue d'une dispute qui avait eu lieu à Berne à la fin des années 1520. Donc voilà, des thèmes un peu hétérodoxes se retrouvent, et on le voit à l'occasion de personnalités qui arrivent ou de curés... de ce curé de Condé-sur-Sarthe qui est mobilisé sur des thèmes considérés par l'Église catholique comme hérétiques. Et on sait aussi que ça va au-delà de ces personnalités, puisque 40 Alençonnais sont poursuivis au cours de l'été 1534 pour différents motifs, pour avoir dérobé et profané des statues de la Vierge et d'un autre saint, pour un certain nombre d'incidents qui sont quand même assez individualisé, mais ça fait quand même masse, puisque 40 Alençonnais sont poursuivis et condamnés à mort par le Parlement de Paris. À ce moment-là, la région d'Alençon fait partie du ressort du Parlement de Paris. Donc, vous voyez, des petits incidents à Alençon, donc ce serait bien la première région repérable où la réforme se diffuse un petit peu. Alors, une autre voie de pénétration d'idées qu'on peut qualifier d'évangélique, en fait, c'est comme ça que les historiens manipulent un petit peu disent les choses. Une autre voie de pénétration, c'est l'université de Caen. L'établissement compte quelques disciples de Jacques Lefebvre d'Étaples, d'Érasme. Et on a aussi, dans ces années 1530, 1540, des éléments qui montrent que les idées luthériennes se diffusent. On joue en 1544, donc on est un peu plus tard dans le siècle, dans les rues de Caen, on le sait, c'est Henri Prantoux qui l'a montré, à partir des archives du Calvados, on joue dans les rues une fable, je cite, dans laquelle se trouve un certain personnage que l'on appelle l'hérésie, qui est représenté comme la mère de la ville et de l'université, et élève ses fils dans la manière la plus abominable et les instruit dans le mépris des constitutions les plus saintes de l'Église. Voilà ce qu'on sait par un document sans avoir trop de précision sur cette farce qui est jouée, mais qui semble avoir des éléments hérétiques. Donc, les idées de la Réforme trouvent aussi des racines, en fait, à l'université de Caen. Ailleurs, la diffusion de ces pratiques hétérodoxes, j'utilise hétérodoxe parce que si on dit hérétique, ça veut dire qu'on se place du point de vue de l'autorité catholique, quoi, des autorités catholiques. Je crois qu'il faut toujours être, jamais trop utiliser les mots des vainqueurs ou d'un camp plutôt que de l'autre, quoi, être prudent dans l'usage des mots. Hein. Donc, ailleurs dans la Normandie, donc, des formes d'hétérodoxie se diffusent, mais c'est souvent le fait d'individualité. Hein. Trois femmes sont arrêtées dans le Cotentin en 1528, on le sait, à Coutances. À Rouen, par exemple, donc à Rouen, je vous rappelle que Rouen, c'est la deuxième ville du Royaume de France, hein, devant Lyon, hein, à l'époque, au XVIe siècle. Bon, évidemment, quand on voit Rouen aujourd'hui, un petit peu perdu, mais je veux dire, à l'époque, c'était une ville très très importante. À Rouen, les années qui marquent en fait la transition entre, si vous voulez, des comportements individuels non conformistes et un protestantisme de type calviniste sont à la fois assez mal connues et durent très longtemps, en fait. Hein, avant 1540, on ne sait pas grand-chose. Après, on a quelques indices. Ça, c'est Philippe Bénédictin, le grand spécialiste qui a travaillé, qui a fait sa thèse remarquable hein, dans les années 70 sur Rouen pendant les guerres de religion. Donc, on sait qu'il y a des profanations. Vous voyez, c'est très individualisé, des vols dans les églises, des brisements d'images, quelques manifestations de groupe. Ça commence dans les années 1540. Des prêches sont donnés dans un champ en dehors de la ville en 1546. Donc, vous voyez, les choses commencent à un peu se cristalliser. Mais ça reste un mouvement très désorganisé. Donc là, si je reprends un petit peu les mots de Philippe Bénédicte, il parle d'un ensemble informe d'individus partageant des idées hétérodoxes de provenance diverse. Vous voyez que les historiens sont extrêmement prudents. Au milieu des années 1540, on sait qu'il y a même eu un culte millénariste dans la capitale normande, sans savoir exactement les contours. Mais voyez que c'est très disparate. Et il y a un moment où c'est le protestantisme de type calviniste qui l'emporte. Mais il faut toujours faire attention. Hein. On a toujours la vision des vainqueurs, mais on a oublié les vaincus, ces autres mouvements hétérodoxes qui pensaient percer un moment et puis qu'ils n'ont pas fait. Alors, deuxième temps un peu dans cette première partie pour essayer de voir un peu, de mesurer un peu l'ampleur de la diffusion de la réforme dans les années 1500, au milieu du 1550, quoi, au moment où les églises se dressent, hein, au milieu du XVIe siècle. Alors, on a différentes sources pour le faire. Par exemple, on peut regarder les condamnés à mort par hérésie, par le Parlement de Rouen, hein, qui avait autorité sur toute la Normandie, qui correspond grosso modo à la Normandie actuelle, la région Normandie actuelle, bien entendu, le Perche, hein, ne faisait pas partie de la Normandie, puisqu'il avait sa coutume propre. Alors, une autre source plus importante, et c'est là, j'ai fait cette carte il y a quelques années, c'est là qu'on peut utiliser en fait le livre des habitants de Genève, puisque beaucoup d'hétérodoxes, plutôt dans le sens réformé, qui sont poursuivis partent à Genève. Et la Normandie est une région qui va donner évidemment beaucoup d'habitants à Genève, puisqu'ils vont à Genève et ils se déclarent habitants de Genève, et à ce moment-là, on les recense. Donc, vous voyez, c'est le biais qu'on a, c'est la source qui est évidemment biaisée par définition, puisque c'est une partie, mais ça nous donne un peu, quand on cartographie, puisque les lieux sont à chaque fois donnés, de manière plus ou moins précise, mais bon, les lieux, on peut quand même en cartographier pour un certain nombre. On a au moins 460 réfugiés qui sont enregistrés entre 1549 et le début de l'année 1560, et on a 371 dont on a le lieu précis d'origine. Et qu'on peut identifier. Alors, parfois, il y a des incertitudes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rouen, c'est la ville qui vient en tête de toutes les villes de France, hein, et qui vient en tête, bien entendu, de la Normandie, avec 155 cas sur les 371. Vous voyez, ça fait plus de 40%, c'est important. L'écart avec la ville qui la suit, c'est-à-dire avec Caen, est très, très important. Hein. On voit bien que la Haute-Normandie est relativement touchée par le phénomène, si tant est qu'on puisse approcher le phénomène comme ça, voilà, vous avez bien compris qu'il y a un biais. On voit bien entendu que le semis plutôt dense dans le Pays de Caux, et vous savez que le Pays de Caux, effectivement, sera, donc, vous voyez, autour du côté de, voilà, Dieppe, entre Dieppe et Le Havre. Hein. Vous avez donc plutôt un pays de côte touché. En revanche, vous remarquez que l'actuel département de l'Eure, et ce sera toujours comme ça dans l'histoire du protestantisme réformé, est plutôt rétif au phénomène. Hein. C'est Évreux, on voit Évreux qui apparaît ici, mais je veux dire autrement, ça reste très, très minoritaire. Et du côté de la basse Normandie, mais au sens où on dirait maintenant aujourd'hui Normandie occidentale, eh bien, comment dirais-je, les principales villes qui sont touchées sont Caen, Bayeux, Saint-Lô. On aperçoit aussi Coutances, voilà. Mais si vous voulez, le Clos du Cotentin, en revanche, hein, alors le Cotentin, vous savez, moi je tiens cette vieille expression de Clos du Cotentin. Hein, c'est comme ça, ma grand-mère parlait comme ça. Et elle disait les gens de là-haut. Hein, elle était de Coutances. Les gens de là-haut, ça voulait dire quelque chose, mais c'était les gens du Clos du Cotentin. Donc le Cotentin, on peut dire que c'est toute la région. Maintenant, le Cotentin, ça désigne la partie nord, mais en fait, historiquement parlant, c'est le pays de Coutances. Hein, donc c'est quand même quasiment toute la Manche actuelle, le département, je veux dire. Donc vous voyez que le Clos du Cotentin, l'Avranchin sont plutôt, sont plutôt rétifs au phénomène, en tout cas tel qu'il apparaît comme ça. Et puis, en revanche, on voit une petite concentration autour de Saint-Lô-Coutances. Et ça a toujours été le cas au XVIIe siècle. Le Saint-Lô, le Coutançais, était relativement touché. Après, Coutances, beaucoup moins en tant que ville, parce qu'évidemment, c'était le siège de l'évêque du diocèse, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, toujours dans cette première partie, c'est qu'on peut, à partir de ce livre des habitants de Genève, on peut faire aussi une sociologie, puisqu'on a les professions qui sont répertoriées dans ce livre des habitants, donc pour les années 1549-1560. Donc les artisans, c'est l'écrasante majorité des Normands présents et qui sont dont le métier est mentionné, c'est-à-dire pour 207 seulement habitants. Vous voyez que notre corpus diminue un petit peu, hein, de référence. Les marchands, c'est moins de 10% de l'ensemble. Donc évidemment, le premier refuge je ne vois, c'est souvent des professions plus mobiles que d'autres. Hein. Donc les artisans le fait qu'ils soient surreprésentés, c'est normal et ça ne veut pas dire que la réforme ne concernait pas d'autres milieux sociaux, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le monde artisanal, et là, c'est sans doute plus juste de voir ça, c'est-à-dire enfin de considérer ce phénomène, c'est-à-dire au sein du monde artisanal, les catégories qui paraissent les plus ouvertes à la réforme, ce sont le haut du panier de l'artisanat, en fait. Hein. Donc les métiers du textile arrivent nettement en tête, avec 78 occurrences, donc c'est en gros 44% des artisans. Hein. Donc on sait que la réforme dans les ateliers du textile, c'est pas mal, c'est plutôt bien diffusé. Les artisans du bois, les orfèvres, les cordonniers, les imprimeurs et les libraires suivent. Et les métiers de l'alimentation, en revanche, sont très peu représentés. Donc là, on retrouve un peu ce qu'avait vu Philippe Bénédict à l'échelle rouennaise. Donc, force de la réforme auprès de l'élite artisanale, quand même, parce que même dans les métiers du textile, souvent, ce sont les métiers les plus, comment dirais-je, correspondant à une certaine forme d'élite qui sont surreprésentés, les bonnetiers, surtout les passementiers, les rubaniers, vous voyez. Donc on voit bien que probablement que les réformés sont plus importants dans l'élite artisanale. Alors la question qui a hanté les historiens, enfin les historiens, il ne faut pas exagérer, c'est on a tendance à surévaluer les questions qu'on se pose, ça concerne maximum 5 personnes qui sont interrogées là-dessus. Mais je veux dire, on gonfle nos questions pour leur donner du sens, bien sûr, mais bon, disons que des grands historiens sont intéressés quand même, en tout cas ils étaient peut-être peu nombreux, mais ils étaient importants. Par exemple, au début du XXe siècle, Henri Hauser disait: À Rouen, en 1560, le parti ouvrier se confond absolument avec le parti réformé. Bon, le débat a été repris au milieu des années 1950 et a été un petit peu amendé, en fait. Un Italien qui s'appelle Giuliano Procacci a souligné le poids des drapiers et des tisserands dans le monde protestant rouennais ou monde réformé. les marxistes sont arrivés dans le débat. Donc, pour reprendre cette idée que, en fait, la réforme coïncidait avec, comment dirais-je, une certaine forme de monde populaire, Henri Heller, par exemple, a dit que la crise de subsistance des années 1540 à Rouen avait contribué à promouvoir la diffusion de l'hérésie, comme il disait, auprès du peuple. Donc, la réforme comme réponse à une crise économique concernant plutôt le monde populaire. Mais alors, de l'autre côté, alors, et c'est très politique tout ça, hein, parce que là, c'est plutôt marxiste, et de l'autre côté, donc du côté de Pierre Chenu, donc plutôt à droite, hein, pour ne pas dire plus, eh bien, là, c'est l'idée qu'il y a une corrélation évidente entre, je le cite, hein, entre la première réforme et le niveau de richesse et le taux d'alphabétisation très élevé en Normandie. Donc, pour lui, c'est plutôt, et pour les auteurs qui le soutiennent, c'est plutôt une réforme liée à un certain niveau d'alphabétisation, de richesse. Donc, vous voyez, il y a débat, hein. Si on veut faire une réponse très normande à tout ça, on pourrait dire que, en réalité, au départ, le mouvement réformé concerne vraiment l'ensemble de la société. Par contre, les choses vont se décanter assez vite, hein. Alors, si on regarde, la deuxième partie sera beaucoup plus courte, hein. Si on regarde l'organisation de la réforme, pour dire un petit peu les choses en bref, là, pour terminer cette première partie, les années 1555-1562, je disais, au moment où on voit toutes ces figures, là, du peuple ou non, qui surgissent, eh bien, on peut dire que des églises sont dressées, je le disais en introduction, ça veut dire organisées autour du consistoire, et des pasteurs qui, en général, viennent de Genève, hein, ce sont tous ces envoyés par Calvin depuis Genève. Et là, on a un petit peu l'idée des premières églises. Alors, je disais hier, l'église de Saint-Lô est dressée vers 1555-1556. Donc, sans doute la première, en Normandie en tout cas, telle qu'on sait les choses. À Rouen, les registres des baptêmes remontaient en 57, hein, je vous le disais aussi hier, détruits en 1944. À Rouen, la fondation de l'église, comme à Dieppe, c'est 1557 par un pasteur qui vient de Genève, qui s'appelle La Jonchée. À Caen, l'église est organisée en 1558. Et on sait que des pasteurs de Dieppe, de Rouen, de Saint-Lô, assiste à ce qui est considéré comme la première réunion, un peu de type réunion ecclésiastique, le premier synode des églises réformées qui se tient à Paris de manière clandestine en mai 1559. On est dans les derniers jours du règne d'Henri II. C'est à ce moment-là que sont élaborées la discipline et puis la confession de foi des réformés. Et puis les réformés eux-mêmes s'organisent à un niveau régional puisque il y a un premier synode provincial commun à la Bretagne et à la Normandie qui se réunit à Caen en juin 1560. Vous voyez, donc les choses, à partir de ce moment-là, sont organisées. Et ensuite, d'autres églises vont être créées. À Alençon, par exemple, en 1561. En 1563, on sait qu'il y a une église à Bayeux, à Falaise. Voilà. Les choses, le maillage des églises prend sens. Donc, stabilité institutionnelle. Donc, en résumant un petit peu pour la deuxième partie, j'ai essayé de voir l'affaiblissement, mais j'ai posé le cadre, hein, du protestantisme ou de la réforme pendant les guerres de religion, hein, donc de 1562 à 1598. Donc, le début des guerres de religion, c'est l'apogée de la réforme, ça je montrerai ça peut-être après, c'est l'apogée de la réforme. Donc on a quelques registres, c'est pour vous montrer le mouvement des trois églises pour lesquelles on avait des données. Pour Saint-Lô, on ne les a plus, mais un chercheur avait travaillé dans les années 30, donc avait noté les chiffres des baptêmes, hein, c'est par rapport au baptême. Et vous voyez en fait que l'apogée, c'est plutôt les années 1560, et qu'ensuite c'est un mouvement de repli, hein, de déclin. Alors, c'est compliqué, vous savez, quand on a le chiffre de baptême, on multiplie, on adopte un coefficient multiplicateur, en général on multiplie par 25, alors ça dépend du type de lieu où on se trouve, mais enfin, voilà, c'est un peu savant tous ces calculs, mais disons que si on applique ces coefficients, on a grosso modo 2500 à 4000 protestants pour Saint-Lô, par exemple, 16500 réformés pour Rouen en 1565, hein, au milieu des années 1560, et puis à peu près 12 000 pour Caen. Après, c'est compliqué parce qu'il faut toujours se dire que les églises réformées ne concernent pas seulement le lieu, mais évidemment, elles rayonnent au-delà. Donc, les mettre en rapport avec une population municipale, si tant est qu'on ait cette population, ça n'a pas beaucoup de sens parce que l'église, elle rayonne bien au-delà de la ville concernée parce qu'il n'y a pas des églises partout, quoi. Alors, évidemment, la vigueur de la réforme se lit un petit peu dans les événements qui se déroulent en Normandie. La Normandie est le théâtre surtout de la première guerre de religion, entre 1562 et 1563. Donc c'est plutôt là qu'il faudrait vous montrer. Alors là, le pauvre pasteur Augustin Marlora, qui est une figure de la première guerre de religion, pasteur de Rouen, est exécuté, mais ce document a été fabriqué en Suisse, ce qui fait que c'est la Rouen dans un contexte plutôt du lac Léman. Vous voyez, c'est un peu original comme façon de faire, hein. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait en tout cas que cette année 1562 et jusque même au début de l'année 1563 est très importante pour les Normands, notamment du fait de la vague iconoclaste de l'année 1562, qui est très importante dans la région, du fait du siège de Rouen, qui est très dur et qui aboutit finalement, comment dirais-je, à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire à l'exécution de plusieurs personnes impliquées dans le siège et au pasteur lui-même de l'église réformée de Rouen, puisque Rouen tombe finalement le 26 octobre 1562. Hein. On est donc là au début du règne de Charles IX, mais qui est encore mineur, vous savez. D'ailleurs, sa majorité, vous savez peut-être, sera proclamée à Rouen en août 1563, donc la vague iconoclaste, le siège de Rouen, et puis un autre élément fort, c'est bien sûr ce qui se passe autour du Havre, qui est livré à Élisabeth Ière avant de revenir au Royaume de France en 1563. Le tout se terminant par l'édit d'Amboise. Hein. Donc là, à ce moment-là, dans ce contexte d'effervescence, le protestantisme ou la réforme est sans doute à son maximum, parce que beaucoup de nobles, et donc dans leur sillage un certain nombre de personnes, s'engagent dans la réforme et en font un étendard aussi de leur rébellion contre les autorités. Hein. Il y a une instrumentalisation politique un petit peu de la réforme à cette époque-là. Alors, quelque chose de merveilleux pour voir la diffusion de la réforme, c'est le fameux journal que vous connaissez sans doute de Gilles de Gouberville, ce fameux gentilhomme du Clos du Cotentin, on peut dire, et qui, comment dirais-je, raconte un peu au quotidien, dans son journal de raison, raconte un petit peu son désir de réforme, et ensuite son renoncement, en fait, son retrait. Hein, il hésite, alors. Et c'est là qu'on voit que c'est très difficile de qualifier les choses, parce que il va à un prêche, ensuite il se dit non, il revient, est-ce qu'il est protestant ou pas? Vous savez, c'est toutes les études de Thierry Van Eckfelen, qui avait parlé d'une espèce d'entre-deux confessionnel, ce moment où les choses ne sont pas encore tout à fait définies, où la frontière confessionnelle n'est pas rigide, quoi. Et c'est très intéressant d'aller voir cet aller-retour. Donc, on a un maximum démographique, mais en même temps, les choses ne sont pas consolidées, quoi. Et on a une adhésion qui est importante, mais qui n'est pas complètement faite non plus, hein. Donc la noblesse est importante à ce moment-là. James Wood, par exemple, l'avait montré pour l'élection de Bayeux. Et puis il y a une reconnaissance, n'oublions pas que dans ces années-là, très importante, il y a une première reconnaissance institutionnelle, hein, puisque les réformés, on les appelle de plus en plus à partir de 1563, ceux de la RPR, ceux de la religion prétendue réformée, c'est comme ça que les appellent les autorités, les réformés sont reconnus, leurs églises aussi. Et c'est les premières églises reconnues officiellement, c'est l'édit de janvier 1562, qu'on appelle parfois l'édit de janvier tout simplement. Nouveau style, là, pour le coup. L'édit de janvier 1562 est très important, et l'édit d'Amboise, après la première guerre de religion, de mars 1563, aussi reconnaît un certain nombre d'églises, et c'est le diptyque qu'on aura tout le temps dans l'histoire du protestantisme jusqu'à la révocation de l'édit Nantes, c'est liberté de conscience pour tous les protestants, liberté de culte partielle. Ce sont vraiment les deux piliers qui sont très importants. Et on a des commissaires qui sont envoyés en Normandie et qui octroient des cimetières, des lieux de culte, enfin on a tout ça, hein. Jérémy Foy a vraiment travaillé là-dessus. Ce qui se passe après, c'est un reflux, hein, en fait, un reflux. Disons que ce reflux commence soit un petit peu avant la Saint-Barthélemy, soit un peu après, en fait. Hein. À Caen, ça commence dès avant la Saint-Barthélemy. À Rouen, ça intervient surtout après. Vous savez que la Saint-Barthélemy, donc de 1572, a eu des échos en province. On appelle ça la saison des Saint-Barthélemy. Et notamment à Rouen, où il y a eu un massacre de 300 réformés qui sont assassinés entre le 17 et le 21 septembre 1572. Et à la suite de ça, beaucoup de gens se sont convertis, beaucoup de réformés sont même partis, c'est ce qu'on appelle le premier refuge. Sont partis, certains ne reviennent pas, d'autres ne reviennent pas en arrière dans leur conversion. Et vous savez qu'il y a une vague qui est, sur le plan théologique, absolument contraire à tout ce que disent les autorités catholiques. Il y a une vague de rebaptême. Normalement, les baptêmes, évidemment, sont valables dans les deux confessions, mais une vague très importante de rebaptême qu'on retrouve dans les registres. Alors, après, dans les guerres de religion, la Normandie est quand même assez peu présente, sauf peut-être dans la 5e guerre civile, avec la fameuse... et là, je suis content de terminer peut-être un peu par ça, la fameuse figure de Gabriel Ier de Montgomery, celui qui a, vous savez, lors de ce tournoi de 1559, qui a mis sa lance dans l'œil d'Henri II, qui a souffert pendant 10 jours, et qui, à partir de ce moment-là, il n'était pas réformé à ce moment-là, mais est devenu relativement indésirable à la cour de France, et, comment dirais-je, qui s'est engagé dans la réforme aussi, et qui est un de ceux qui est autour duquel s'est organisé les combats de la réforme en Normandie dans les années 1560 et surtout 1570, avant qu'il ne soit appréhendé et qu'il ne soit exécuté en place de grève à Paris en juin 1574. Alors, dans les événements qui terminent cette séquence des guerres de religion, il y a aussi, bien sûr, la Ligue, très importante, et ce fameux édit de Nemours que j'évoquais hier, c'est-à-dire cet édit qui interdit la liberté de culte et la liberté de conscience, et qui aboutit également à une vague de refuge. Très important, dans les années 1580, après des gens vont revenir aussi, mais ça structure un peu le mouvement, ce balancier entre départ, retour, est aussi très important. Donc je conclus cette fois définitivement en disant que à la fin du XVIe siècle, quelles sont un peu les caractéristiques de la réforme? Disons que en 1598, au moment de la signature de l'édit de Nantes, qui est le plus connu parce qu'il a marché, les autres n'avaient pas fonctionné longtemps, la population réformée, c'est 9% de la population française, à peu près. C'est variable d'une région à l'autre. Pour les années 1660, moi j'ai pas trop, là je peux pas faire d'enquête pour les années 1590. En Normandie, il y avait probablement 2% de protestants, mais attention, il y avait des bastions très puissants, 20% à Dieppe par exemple. Donc, si vous voulez, ce chiffre global n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, avec quelques bastions, si on regarde ce protestantisme ou cette réforme à la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle, il y a quelques bastions. Qui dit bastion dit temple aussi, c'est un petit peu hors de ma période. Mais voilà, les deux temples, les deux gravures des temples de Quevilly en périphérie, donc au Grand Quevilly actuellement, et de Caen, des temples avec une architecture particulière. Donc des bastions urbains importants, Rouen, Saint-Lô, Dieppe. Et quelques camps, bien sûr, et quelques autres, et des bastions ruraux, le Bocage en Basse-Normandie et le Pays de Caux en Haute-Normandie. Et puis des zones aussi un peu blanches, où, dirait la ministre de la Culture, les zones blanches là, mais comment dirais-je, ou des zones un peu où il n'y a pas beaucoup de monde, du point de vue de la réforme, le Pays d'Ouche par exemple. L'Avranchin, le Clos du Cotentin. Alors, ce qui est intéressant dans la carte de la réforme, c'est que elle est, en Normandie, c'est qu'elle est plutôt calquée sur la carte de l'évangélisme du 1er 16e siècle. Et ça, c'est assez rare qu'il y ait ce calque qui se fasse. Donc, si le protestantisme demeure, en fait, ultra minoritaire, les réformés occupent des positions avantageuses dans certains bastions, on l'a vu, Toutefois, n'oublions pas que le déclin démographique est patent. Il faut reconnaître que le protestantisme, ça c'est la formule de Pierre Chenu, s'use vite en Normandie. Donc la paix de Nantes, l'édit de Nantes, ça constitue ainsi, pour les communautés réformées, une occasion d'affermissement après plus de 30 ans de conflit. Voilà, je vous remercie.